Bienvenue à l'écoute. Il est 7h en temps universel. Nanit Talani en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui. À la une, à l'ONU, le président togolais Faure Gnassingbé fait le plaidoyer pour une aide adaptée aux besoins des populations.
Ma vision, c'est celle d'une Afrique qui prend pleinement son rôle de partenaire stratégique.
Disparition tragique en Guinée. Le colonel Célestin Bilivogui identifié à la morgue de Conakry. Au Bénin, arrestation de hauts responsables dans une affaire de corruption. Répression RDC, des milliers de voix congolaises s'élèvent contre la candidature de Kinshasa à l'ONU. Investec s'implante à Dubaï pour capter des richesses privées. À suivre dans la minute éco. Et puis en sport, Filda Bondas, pionnière du football féminin au Soudan du Sud. Mais tout d'abord, le journal. À la tribune de l'ONU, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est inscrit en faux contre les tentatives d'ingérence étrangère dans le Sahel et l'inaction de l'organisation. Alexandrine Holognon, notre envoyée spéciale à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, revient sur les discours qui ont marqué la deuxième journée du débat général à New York.
Dans son discours à la tribune de l'ONU, le président sénégalais est largement revenu sur la situation dans le Sahel. Nous ne pouvons accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités étrangères, a déclaré Bassirou Diomaye Faye, en insistant sur la souveraineté des États africains et son souhait d'une collaboration d'égal à égal avec les pays du Nord.
Nous ne voulons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Des groupes terroristes sèment la terreur, pillent, tuent les populations civiles innocentes. Cette région, autrefois stable, est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, restent trop souvent inertes.
S'exprimant sur la situation dans la bande de Gaza, Bassirou Diomaye Faye a appelé à un cessez-le-feu et réitéré une solution à deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. À sa suite, le premier ministre du Tchad, Alamaye Alina, a mis en garde contre l'expansion des groupes terroristes en Afrique si la communauté internationale n'affiche pas une réelle volonté pour relever ce qu'il a qualifié de désastre terroriste dans le Sahel. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, a lui plaidé pour une aide qui réponde aux besoins et aux capacités d'agir des populations qui la reçoivent.
Ma vision, c'est celle d'une Afrique qui prend pleinement son rôle de partenaire stratégique dans la construction de nouvelles règles de régulation planétaire.
Ce jeudi, parmi les délégations africaines, ce sera le tour des représentants du Kenya, de la Centrafrique, de la Gambie, du Soudan et de la Côte d'Ivoire de s'exprimer à la tribune de l'ONU. Alexandrine Holognon, New York, VOA Afrique.
Le corps d'un colonel guinéen, mystérieusement disparu il y a presque un an, a été présenté hier à son épouse à la morgue de Conakry, a indiqué l'un de ses avocats. Les détails avec Dili Diko.
La femme et les avocats du colonel Célestin Bilivogui se disaient sans nouvelles de lui depuis son arrestation par des gendarmes en novembre 2023. Il a ensuite été amené vers une destination inconnue. C'était quelques jours après l'évasion de prison de l'ancien leader Moussa Dadis Camara et de trois co-détenus jugés à ce moment-là pour leur implication dans un massacre en 2009. Le dernier fugitif, Claude Pivi, vient d'être arrêté au Libéria et extradé à Conakry ce mois-ci. Le colonel Bilivogui a été radié de l'armée après cette évasion. Son épouse, Lauratu Bangoura, avait mis en cause le commandant de la gendarmerie nationale, le général Bala Samoura. Mercredi matin, elle a été conduite à la morgue où on lui a présenté le corps de son mari, a dit un de ses avocats, maître Salifou Beavogui. Il est le deuxième officier en quelques mois à mourir dans des circonstances obscures. L'ancien chef d'état-major et ex numéro 2 du régime militaire, le général Sadiba Koulibaly, est mort en détention en juin après sa condamnation pour désertion et détention illégale d'armes. Deux opposants, Fonike Menge et Mamadou Biloba, sont toujours portés disparus depuis leur arrestation en juillet.
Au Bénin, la justice a annoncé hier après-midi l'arrestation du commandant de la garde républicaine, d'un ancien ministre et d'un homme d'affaires soupçonné d'avoir planifié un coup d'État. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi aux alentours d'une heure du matin alors qu'il donnait 6 sacs de billets de banque à Jimon Dieudonné Tevo Ejere, le commandant de la garde républicaine selon la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin. Son procureur, Hélène Mario Metonou, a précisé que les interpellations avaient eu lieu lors de cette remise d'1,5 milliard de francs CFA. Olivier Bocco, patron du groupe Denrées et Fournitures Alimentaires et ami de Patrice Talon depuis une vingtaine d'années, a également été arrêté dans la nuit de lundi à mardi à Cotonou, la capitale économique du Bénin, d'après ses proches et la criette. Olivier Bocco avait commencé à afficher des ambitions politiques, laissant penser qu'il se porterait candidat à la magistrature suprême en 2026. Arrivé au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon arrivera au bout de son second mandat en 2026. Il ne pourra pas se représenter selon la constitution béninoise.
Quelques centaines de manifestants se sont élevés hier à Kinshasa contre la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ils dénoncent répression et arrestation arbitraire dans le pays. Les précisions de Rosine Munezero.
Libérer les opposants, nous disons non à la dictature, ont clamé les protestataires aux abords du cabinet du ministre de la Justice, Constant Mutamba, dénonçant une démocratie bafouée en RDC. Une ONG locale de défense des droits des prisonniers a dénoncé lundi dans un communiqué des violations des droits de l'homme répétées dans le pays, évoquant des arrestations arbitraires, détentions illégales, tortures physiques et morales, ainsi que des exécutions sommaires. La RDC a annoncé en août, à l'issue d'un conseil des ministres, se porter candidate à un siège au Conseil des droits de l'homme et au Conseil de sécurité des Nations unies réunis. Plusieurs pays africains, dont l'Afrique du Sud et le Nigeria, réclament aussi pour l'Afrique des sièges permanents au Conseil de sécurité. La RDC a déjà été élue en 2017 au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Son élection avait suscité de vives critiques de la part des États-Unis et des ONG.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Iwao Hakamada, un Japonais de 88 ans, a été acquitté ce jeudi par la justice de son pays après avoir passé 46 ans dans le couloir de la mort, le plus long au monde. Accusé d'avoir assassiné en 1966 son patron et 3 membres de sa famille, il avait été condamné à mort en 68. Bien qu'il ait initialement avoué, il s'était rétracté, dénonçant des méthodes d'interrogatoire brutales. Les États-Unis ont annoncé hier une nouvelle aide de 160 millions de dollars pour Haïti, où une force de police internationale tente de stabiliser le pays face à la violence des gangs. Parallèlement, Washington a imposé des sanctions à un ancien membre du Parlement et au chef du gang Grand Griff pour leur rôle dans le soutien aux gangs et des violations des droits de l'homme. La Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Helene, classé comme un ouragan majeur, ce qui pourrait frapper la côte ce soir avec des vents atteignant près de 140 km par heure. Des milliers d'habitants ont commencé à évacuer alors que les autorités avertissent d'un potentiel ouragan catastrophique et meurtrier pour la région avec des marées de tempêtes, des vents violents et des fortes pluies. Helene, qui a causé des pluies diluviennes à Cuba, menace la Big Bend Coast en Floride, où des inondations pourraient atteindre jusqu'à 6 mètres. L'administration Biden-Harris est prête à apporter son assistance, tandis que le gouverneur Ron DeSantis a déclaré un état d'urgence et mobilisé la garde nationale. Des ordres d'évacuation ont été instaurés dans plusieurs comtés. Le maire de New York, le démocrate Eric Adams, visé par des soupçons sur le financement de sa campagne en 2021, a été inculpé dans une enquête menée par un parquet fédéral, a révélé mardi soir le New York Times. Le journal ne précise pas les motifs de l'inculpation, mais le maire est visé depuis plusieurs mois par des accusations de dons illégaux de sociétés liées à la Turquie. Voilà pour le journal. Vous suivez les dernières nouvelles sur VOA Afrique et voaafrique.com. Voilà pour le journal. Vous suivez les dernières nouvelles sur VOA Afrique et voaafrique.com. En RDC, relance des activités minières dans le sud Kivu. Investec ouvre un bureau à Dubaï. Hausse de la demande en pétrole jusqu'en 2050. Voici les dernières nouvelles économiques avec Jacques Aristide.
En République démocratique du Congo, le gouverneur du Sud Kivu a approuvé la reprise de toutes les activités minières dans cette région riche en minerais tels que l'or, le cuivre, le diamant, l'étain, le tantal et le cobalt. Le gouverneur Jean-Jacques Assadiki affirme toutefois que les autorités poursuivront leur enquête sur le secteur. En juillet, il avait ordonné aux entreprises et aux opérateurs de quitter les sites miniers afin de rétablir l'ordre dans les opérations minières. Une enquête préliminaire indique que plus de 550 exploitants miniers sur près de 650 opéraient sans les autorisations nécessaires. Le prêteur sud-africain Investec indique avoir ouvert un bureau à Dubaï en vue d'accéder à plus de 3 000 milliards de dollars de richesses privées dans la région. Le groupe bancaire et de gestion de patrimoine international opère en Afrique du Sud, à Maurice, au Royaume-Uni, en Irlande, dans les îles anglo-normandes, en Europe continentale, aux États-Unis et en Inde. La sortie des énergies fossiles est un fantasme pour l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, qui prévoit que la demande en or noir continuera de progresser au moins jusqu'en 2050, un cap symbolique de la lutte contre le changement climatique. Parmi les principaux facteurs de soutien de cette demande de pétrole et de l'énergie en général, l'accroissement de la population mondiale, qui passerait de quelque 8 milliards d'habitants aujourd'hui à 9,7 milliards d'ici 2050, une croissance tirée notamment par des pays africains et asiatiques.
En sport ce matin, nous mettons en lumière le football féminin au Soudan du Sud avec un focus sur Filda Bondas, une footballeuse qui œuvre pour faire avancer ce sport dans son pays. Voici Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Nous parlons de foot féminin ce matin, direction le Soudan du Sud, où la footballeuse Filda Bondas défie les préjugés.
Oui, le football féminin lutte pour se faire une place dans la sphère du ballon rond local sud-soudanais. Un nom est associé au foot féminin dans ce pays, Filda Bondas. La suite, c'est Michel Joseph qui la raconte.
Filda Bondas est l'une des rares footballeuses du Soudan du Sud et la seule arrière-gauche au niveau national, une compétence dont elle est fière et dont elle tire le meilleur parti. Elle et les autres membres de l'équipe Yay Joint Stars sont de jeunes footballeuses en devenir qui brisent les normes culturelles dans un pays où le sport et la plupart des autres activités restent dominés par les hommes.
Je me suis dit que si je m'entraînais avec des garçons, je pourrais être beaucoup plus forte que les autres. Normalement, j'avais l'habitude de jouer avec des femmes. Alors, quand je joue avec des femmes, je vois que j'ai plus d'énergie. C'est ce qui me permet d'être compétitive.
Les femmes de Yei, et plus largement de la région de Équatoria occidentale, ont subi d'immenses préjudices du fait de la persistance du conflit. Nombre d'entre elles ont perdu la vie, leur maison, leurs moyens de subsistance et leur espoir. Cependant, le retour d'un calme fragile a permis aux gens de reprendre leur vie en main et d'explorer de nouvelles opportunités.
We have a different background.
Nous avons des origines et des familles différentes et certains parents ne veulent pas que leurs filles jouent au football.
Girls to play football, but I'm just requesting them.
Mais je leur demande simplement de les laisser jouer afin que nous puissions hisser notre drapeau ensemble.
Filda a été l'une des vedettes d'un récent match de football exclusivement féminin organisé par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud pour mobiliser et unir les communautés, en particulier les jeunes.
Merci Michel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Restez à l'écoute pour notre segment magazine. Le premier ministre guinéen est à New York dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU. Dernièrement, il a annoncé que le calendrier pour des élections ne pourra pas être tenu cette année comme prévu initialement. Alors que la transition militaire a dépassé 3 années, un projet de nouvelle constitution va être soumis à un référendum au mois de décembre, selon Amadou Ouriba, qui a précisé à VOA Afrique que les élections présidentielles se tiendront après le référendum constitutionnel en 2025.
Après le référendum constitutionnel, nous irons directement à la présidentielle pour parachever ce processus qui, pour la mise en force des institutions de la République, nécessite que le pouvoir exécutif soit démocratiquement installé afin de mettre la suite selon un agenda et dans une logique de stabilisation tout en instituant ces nouvelles institutions de la République.
Nous avons entendu récemment le porte-parole de la présidence et il me semble aussi le porte-parole du gouvernement dire qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce que M. Mamadi Doumbouya puisse se présenter notamment. Est-ce que cela veut dire qu'à un moment donné, on pourrait faire sauter ce verrou et que effectivement les militaires, en tout cas le général Mamadi Doumbouya, pourraient se présenter?
La question fondamentale autour de l'avant-projet constitutionnel et l'esquisse de la proposition constitutionnelle, c'est de faire en sorte que personne ne soit exclu, disons, de l'espace démocratique. Donc aussi bien le général Mamadi Doumbouya que d'autres, dans le cadre du rassemblement, disons, de faire en sorte que la Constitution ne soit pas orientée de manière personnelle. Il va de soi que tous les cas de figure que vous avez esquissés sont tout à fait possibles.
Vous avez été opposant. Aujourd'hui, les Guinéens sont toujours interdits de manifestation. Et quelle est la position du gouvernement pour justifier cette mesure en vigueur?
Vous savez, lorsqu'on a traversé plusieurs épreuves, on en tire des leçons. Lorsque la situation s'améliorera, les institutions de démocratie seront installées, il va de soi, libre à chacun d'exprimer par les voies démocratiques, légales, leurs divergences.
Nous savons que le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont aussi des régimes militaires issus de coups d'État, comme la Guinée. Quelle est votre vision sur ces 3 pays finalement et quel est votre mode de communication avec eux?
Hier, j'étais en aparté avec le ministre malien. Je leur ai dit, vous avez la possibilité de rester dans l'AES, mais sachez que l'AES peut être une sous-organisation dans le cadre de la CEDEAO de manière globale. Nous avons des acquis que d'autres régions d'Afrique nous jalousent. Donc, pour des intérêts conjoncturels, certes difficiles, il ne faut pas se détourner de l'organisation qui est celle qui a plus de 50 ans, qui est la CEDEAO.
Amadou Ouriba, premier ministre de la Guinée, répondait aux questions de Nathalie Barge.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'intellectuel sénégalais Amadou Makhtar Mbo, qui a dirigé l'UNESCO pendant 13 ans, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Dakar à l'âge de 103 ans. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déploré la disparition d'un grand défenseur du multilatéralisme. Eric Manirakiza a joint le sociologue Mamadou Lamine Sagna, professeur à Worcester Polytechnic Institute, auteur de Amadou Makhtar Mbo, une légende à raconter.
Nous avons perdu un grand homme. Amadou Makhtar Mbo a représenté bien plus qu'un modèle à suivre pour moi. Il a été un mentor, un guide, un homme avec qui j'ai partagé des moments forts, empreints de respect mutuel et de compréhension. Parmi les souvenirs les plus marquants de notre relation, je me rappelle des moments où il m'a raconté son enfance.
Il représente l'incarnation des valeurs d'amitié, de compassion, de solidarité et surtout d'humilité. Des valeurs qu'il a acquises lors de son enfance dans le monde rural sénégalais. Et ce sont ces valeurs qu'il a portées jusqu'au plus haut point lorsqu'il est devenu directeur général de l'UNESCO. Amadou Maktambo a d'abord été ce jeune rentré très tard à l'école après avoir fini l'école coranique à l'âge de 9 ans. Ensuite, il a continué jusqu'au moment où on l'a recruté pour faire la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est d'abord échappé, libéré. Il est parti une deuxième fois, c'est pour montrer son courage. Il a continué ainsi pour faire ses études en France. À son retour de France, il a contribué à l'instauration de ce qu'on appelait l'éducation de base, c'est-à-dire dans les villages, apprendre aux populations la manière dont ils doivent construire leur vie à partir des instruments de la science et de la technologie de l'époque. Et ensuite, Amadou Maktambo, comme vous le savez, au niveau de la loi cadre en 1957, a été le premier à être ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Il a eu des relations à la fois complexes et honnêtes avec les combattants de son époque, tels que Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Lamine Gueye et les autres. Voilà la vie d'un homme qui ne cessera d'incarner la lumière pour les générations africaines.
Comment décririez-vous l'héritage d'Amadou Maktambo, en particulier dans son engagement pour une éducation plus juste et l'égalité entre les cultures à l'échelle mondiale?
Je pense que Amadou Maktambo a compris que c'est par l'éducation qu'on peut libérer l'homme. Et je pense que de toute son œuvre, c'est de fait que l'éducation doit se faire non seulement à partir des méthodes, des outils dont on dispose du point de vue de la modernité, mais aussi elle doit s'inspirer des valeurs sociales et culturelles des populations. Et sur ce plan-là, je pense qu'il a contribué déjà en faisant faire l'histoire générale de l'Afrique, en étant le premier à demander, par exemple, le rapatriement des objets d'art africains qui ont été spoliés par le colonialisme. Et je pense que, donc, le point le plus marquant pour lui, c'est que l'éducation doit commencer à la base, mais elle doit aussi être quelque chose qui doit servir le développement et la libération, l'émancipation des populations.
Le sociologue Mamadou Lamine Sagna, professeur à Worcester Polytechnic Institute, et auteur de Amadou Maktambo, une légende à raconter.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
D'intenses combats se sont poursuivis mardi entre Israël et le Hezbollah, alors que l'armée israélienne continuait ses attaques contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. D'après les autorités libanaises, plus de 550 personnes ont été tuées dans les frappes. Linda Gradstein en parle dans ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
Des dizaines de milliers de résidents du sud du Liban ont fui leur foyer depuis qu'Israël a lancé ses frappes aériennes contre les cibles du Hezbollah la semaine dernière. Israël accuse le Hezbollah de stocker des roquettes et des missiles dans des zones civiles et a averti les habitants de fuir. Fatma Ibrahim Shebab a été déplacée de son domicile dans le village libanais de Toul.
Ils ont frappé juste à côté de notre maison et notre bâtiment tremblait. Nous étions très stressés, c'est pourquoi nous avons dû partir et venir ici. On nous a dit que c'était sûr ici. La situation est vraiment tragique.
Israël a également frappé Beyrouth pour la quatrième fois depuis le début des hostilités il y a près d'un an. Les forces de défense israéliennes affirment que la cible était le chef de l'unité des missiles du Hezbollah. Selon les rapports, il a été tué. Les autorités libanaises ont déclaré qu'au cours des deux derniers jours, au moins 94 femmes et 50 enfants ont été tués. Les responsables israéliens affirment que le Hezbollah a subi un coup dur cette semaine après que des milliers de beepers appartenant à des membres du groupe ont explosé simultanément. Le général à la retraite Yaakov Amidror est chercheur à l'Institut juif d'Amérique pour la sécurité nationale.
Dans l'ensemble, c'est un succès majeur d'avoir éliminé les commandants et la direction du Hezbollah en frappant des cibles très stratégiques au Liban. Mais il faut rester prudent. Ce n'est que le début. Il faudra du temps pour éliminer toutes les capacités du Hezbollah.
Le Hezbollah a également continué à tirer des roquettes sur le nord d'Israël. Plus de 100 missiles ont blessé plusieurs Israéliens et forcé les habitants à se réfugier dans des abris anti-bombes. Malgré l'intensité des combats, les deux camps semblent éviter une guerre totale. Israël n'a pas envoyé de troupes terrestres au Liban et le Hezbollah n'a pas visé le centre d'Israël. Cependant, Amidror souligne qu'Israël souhaite établir une zone tampon entre la frontière libanaise et le fleuve Litani.
Si aucune entité extérieure, que ce soit les Américains, les Français ou d'autres, ne parvient à un accord garantissant que le Hezbollah reste au nord du Litanie, nous devrons probablement envoyer des troupes terrestres pour nettoyer la zone des rampes de lancement du Hezbollah et établir une zone de sécurité empêchant l'accès aux membres du Hezbollah.
Les préoccupations internationales croissent face à la possibilité que le conflit entre Israël et le Hezbollah ne dégénère en une guerre régionale à grande échelle, ce qui pourrait entraîner l'intervention d'autres nations. Joseph Borrell est le chef des affaires étrangères de l'Union européenne.
Nous devons continuer à appeler à un cessez-le-feu immédiat de chaque côté de la ligne, tout comme pour la situation à Gaza. Elles sont liées, elles sont étroitement liées. Ce qui se passe à Gaza déclenche d'autres scénarios de guerre.
S'exprimant hier aux Nations Unies, le président Joe Biden a affirmé sa détermination à empêcher une guerre régionale et a appelé à une solution diplomatique entre Israël et le Hezbollah, ainsi qu'entre Israël et le Hamas à Gaza.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Bien que les États-Unis soient un pays qui a connu plusieurs partis politiques au cours de son histoire, le système actuel ne laisse véritablement la place qu'à deux formations politiques, les démocrates et les républicains, qui dominent l'arène politique. Michel Joseph nous en dit plus.
La domination du système bipartite peut sembler étrange. La Constitution américaine ne dit rien sur les partis politiques. Et George Washington lui-même, le premier et le seul président élu sans représenter un parti politique, a mis en garde contre les partis politiques dans son discours d'adieu. Mais avant même que Washington ne quitte ses fonctions, deux factions s'étaient formées au sein de sa propre administration et elles allaient devenir les premiers partis politiques du pays. Depuis lors, les partis se sont parfois divisés ou dissous et de nouveaux partis se sont formés pour les remplacer. Mais ces bouleversements s'installent généralement dans un nouveau système bipartite. La principale raison de ce schéma est que le système électoral américain repose essentiellement sur le principe du « winner take all », selon lequel les électeurs ne peuvent choisir qu'une seule option et le candidat qui obtient le plus de voix remporte l'élection. Si ce système a l'avantage de la simplicité, il encourage les différentes factions et les différents intérêts à se regrouper au sein d'un même parti pour avoir une chance de vaincre leurs adversaires, qui bien entendu feront de même. En revanche, les pays où les élections sont multipartites ont souvent recours à la représentation proportionnelle dans laquelle chaque parti obtient un nombre de sièges parlementaires correspondant à sa part de voix. D'autres systèmes incluent le choix classé ou le vote à plusieurs tours qui permet aux électeurs d'exprimer des préférences plus particulières tout en sachant qu'ils pourront déplacer leur vote vers un candidat plus viable si nécessaire. Cependant, même les élections multipartites aboutissent souvent à une coalition libérale ou de gauche contre une coalition conservatrice ou de centre-droit. D'une certaine manière, le système bipartite reflète simplement la nature de l'échiquier politique. Jusqu'à présent, aucun candidat d'un parti tiers n'est devenu président aux États-Unis. Ces candidats sont souvent accusés de jouer le rôle de trouble-fête en détournant des voix potentielles du candidat du parti principal, considéré comme idéologiquement plus proche de leur position. Néanmoins, alors que les électeurs se sentent de plus en plus insatisfaits de leur option, le cycle électoral de 2024 a vu de nouveaux appels à la réforme électorale et au soutien de candidats tiers tels que Cornel West et Robert F. Kennedy Jr. En fin de compte, tout se jouera entre les deux principaux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, dans un scrutin qui s'annonce très serré.
C'est la fin du monde aujourd'hui au micro de Nanit Talani. L'équipe de la VOA par ma voix vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.